écrire.
Nous avons en nous l'exigence d'un monde qui serait tel qu'il serait viable pour nous. Comme le monde comme il aurait dû être pour que je sois vraiment heureux. Bon, il faut décrire ça surtout littérairement. Hein? Et je crois que toute l'aventure des contes de fées, c'est d'essayer de décrire le pressentiment de chaque, comment chacun voit le minute. Nous avons la vision des prophètes. Et les prophètes sont allés à l'essentiel. C'est un monde où les contradictions essentielles de ce monde-ci pour l'homme sont résolues, en particulier la paix, la vérité, la générosité et l'équité. Vous vous rappelez du texte d'hier soir. Et ce que je crois pouvoir dire, d'après l'expérience que j'ai de l'étude de cette question, c'est que l'enfant a, à sa manière, à son niveau, l'intuition de ce monde. Et chacun pour lui-même. Et pendant quelque temps de son enfance, on appelle peut-être ça le temps de l'innocence, il vit, dès ce monde-ci, dans ce monde à venir pour lui. Et c'est quand il commence à ouvrir les yeux qu'il tombe dans ce monde-ci. Et au fond, les prophètes nous ont dévoilé quelle est la vérité de ces rêves des enfants. Bon, est-ce que c'est clair? Moi, je crois que c'est l'essentiel de ce que je pourrais dire à ce sujet. Chacun peut connaître pour lui ce que c'est que son monde à venir. C'est ce monde-ci pour lui, mais à la limite du réussi, de la plénitude et de l'évacuation des contradictions, Bilam avec la Netzar, etc., et tous les versets reviennent à ce sujet. Le monde tel qu'il aurait dû être pour que j'accepte d'y vivre. Mais c'est celui-là qu'on m'avait présenté en me demandant si j'accepte d'y venir. Et puis quand je suis né, je suis tombé dans ce monde-ci de ce monde à venir. Est-ce que c'est clair? Bon.
Avec cette histoire qu'a raconté un jour il y a 10 ans, je te voudrais. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette histoire qu'a raconté il y a 10 ans environ Théo Dreyfus? C'est un juif qui est très malheureux et qui va voir un rabbin et qui lui dit, mais écoute, c'est pas possible, depuis le temps nous attendons le Messie, mais quand est-ce qu'il va arriver? Et le rabbin lui répond, si tu veux, aujourd'hui, il est là. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire?
Cette histoire existe, mais grave.
Elle existe. C'est un texte de la Gemara. Hayom im bekolot tishmaou. Aujourd'hui, alors c'est Eliyahu Navi qui répond. Matai haiti mar. Eliyahu Navi, on le rencontre partout. Alors un jour, il y a un juif qui dit, tu es là? Alors dis-moi, quand est-ce que le Messie viendra? Il dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, il cite le verset, si vous écoutez ma voix. Ça veut dire, chacun. Absolument, ça va dans ce sens-là. Okay? Ça veut dire que chacun peut arriver à un moment de sa vie, c'est peut-être assez corollaire ce que je vous ai dit, cette expérience de dévoilement, à commencer à vivre dans de l'ordre du monde à venir, déjà de ce monde-ci. Et c'est pourquoi, vous savez, il s'agit des tzadikim heureux. Ils continuent à vivre dans l'enfer qu'on appelle ce monde-ci, mais en réalité, ils sont déjà branchés sur leur monde à venir dès ce monde-ci. Alors, c'est là que ça nous fait comprendre ce que les mystiques, à quoi les mystiques font allusion en disant le monde qui nous entoure de la réalité, c'est un monde d'apparence, nous sommes dans un vrai monde, dans l'expérience mystique. Bon, c'est en dehors de la tradition juive, mais parallèle, vous comprenez? Donc, on peut bien faire attention que, en réalité, c'est dans ce monde-ci que l'on est. Mais c'est dans l'ordre de la vie intérieure qu'il y a déjà cette espèce de branchement que j'essaie de vous décrire sur la réalité de l'évidence que ce sont ces choses imparfaites qui sont le véhicule du parfait dont nous avons exigence. Et c'est pourquoi, je reviens à ce texte que je vous disais, au temps de la sortie d'Égypte, il y a eu cette expérience, elle nous est gardée que sous forme de tzimtzum, de diminution au 60e, dit le Talmud. C'est le chiffre par lequel elle désigne l'ordre du pressentiment. Que le goût de la manne, on sait plus ce que c'est. Si on sait quand même, le goût de la manne, c'est 60 fois le goût du miel. Déjà, le goût du miel, on ne supporte pas. Alors, 60 fois. Et je vous donne les autres correspondances, que Shabbat, c'est un 60e du Olam Haba. Un vrai Shabbat. Pas un Shabbat où on s'ennuie. Ça, c'est la crainte des gens pieux. le paradis, on risque de s'ennuyer. Il y aura que des rabbins. Bon, l'histoire, j'ai entendu des Français, il y aura que des bonnes sœurs. Et alors, là, il y a encore le fait que le rêve, c'est le 60e de la prophétie. Alors, ce n'est pas n'importe quel rêve, bien entendu. Okay, ça, c'est un sujet pour lui-même. Et que le sommeil, c'est le 60e de la mort. Ça, c'est pour nous rassurer que la mort est un sommeil profond. On ne risque pas d'avoir des cauchemars. Jusqu'au moment du réveil. Alors là, c'est le jugement. C'est autre chose. Ken, rapidement. Alors, attendez. Alors, j'ai dit donc le monde à venir en français. En hébreu, ça s'appelle Olam Haba, c'est-à-dire le monde qui vient. Il est en train de venir. Il est en train de venir émergent dans l'histoire de ce monde-ci. Je voulais vous citer une fois, je sais que je vous l'ai cité, un enseignement du Rav Nachman de Bratslav, qui pose la question. On parle de ce monde-ci et du monde à venir. Le monde à venir, on comprend. Oui, c'est un juif normal, lui. Mais ce monde-ci, où c'est? Ici, c'est l'enfer, il dit. Ça veut dire, on est tombé très, très bas. Enfin, il parlait de ce monde-ci en disant, comprends pas, hein, ce monde-ci. Alors, ce monde-ci nous sera donné. Je veux dire, hein, ce monde-ci, mais en ordre. Et on ne peut pas se satisfaire de ce monde-ci. Il nous faut le monde à venir. Ça veut dire, une âme de bonne santé ne peut pas se satisfaire de ce monde-ci. Hein? Mais pourtant, il faut, et je reviendrai sur l'expression, mais il faut savoir qu'il s'agit, c'est un nécessaire provisoire, mais les deux termes sont importants. C'est provisoire, mais c'est nécessaire. Il faut réussir dans ce monde-ci. Parce que dès qu'on a rendu la copie, on ne peut plus changer la note de l'examen. Alors la copie, on va la rendre au moment où on fermera les yeux. Et après, ben après c'est trop tard. On sera, le monde à venir qu'on aura ne sera que le monde à venir de ce monde-ci qu'on a mérité. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça qu'il faut beaucoup étudier. Parce que après, on ne saura que ce qu'on a étudié ici. Enfin, ici, je veux dire en bas. Okay. Et même si on ne comprend pas, au moins, parce que la Neshama comprend. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'est votre Neshama qui a compris. Et alors, on étudie, on étudie, on étudie, et puis c'est là-bas qu'on va nous expliquer. Mais si on n'a rien sur quoi expliquer, on va s'ennuyer. Bon, vous avez compris ce que je veux dire? Je me rappelle quand j'étais enfant, on apprenait, bon, d'abord les chapitres de la Bible et tout le reste, au kilomètre, hein, par cœur. Mais on savait, on était en sécurité, on savait qu'il arriverait un âge où on comprendra. Mais pour qu'on ait de quoi comprendre, il fallait apprendre d'abord. Est-ce que c'est clair? Alors, vous voyez comment c'est important de sortir vite de ce temps un peu d'adolescence infantile. C'est de l'orgueil. On ne veut apprendre que ce qu'on comprend. Que ce qu'on comprend. Alors finalement, chaque Shabbat, on étudie un mot de la Sidra. Et tout le reste. Alors, quand on arrive là-haut, on dira, quel parasha c'était la semaine? Il va dire Behar Bechukotai. Allez, raconte-moi. On va dire, ben voilà, le titre c'est Behar Bechukotai. Je ne sais pas plus. Alors on se dira, bon, alors tu es. Recommence. Bon, j'exagère, n'ayez pas peur, hein. C'est pire que ça. Alors, comme c'est très fatigant de recommencer, il vaut mieux pas. Okay. Alors, je sais, surtout chez les étudiants en France, il y a cette espèce de coquetterie. Je veux comprendre. Et alors, on n'apprend pas. Vous avez compris.
Pour être vraiment heureux. C'est-à-dire que chaque sensibilité.
Écoutez, pour être vraiment heureux, c'est vous qui avez formulé comme ça. J'ai dit pour être vraiment vivant, vivable.
Non, parce que là, je pense aux autres peuples, aux différentes civilisations. Chacun peut se parfaire, même sans être juif. Et je pense à des sensibilités très différentes, que ce soit polynésien ou bouddhiste. Alors, est-ce que ça veut dire que dans le monde à venir, c'est pas parce que si Dieu est reconnu qu'il y aura encore des. Par exemple, pour les hindous qui reconnaîtront le Dieu hindou, c'est pas du tout ça que je veux dire. Si comme il est écrit, la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel. Mais est-ce qu'il subsistera quand même pour que cet homme qui a vécu, soit en tant que polynésien ou en tant que chinois, en tant que bouddhiste, est-ce qu'il y aura quelque chose, des éléments de son monde dans lequel il a pu arriver à cette perfection personnelle?
Et c'est la règle que je vous ai dite pour Israël qui a reçu la... C'est la même pour tous les autres, c'est-à-dire chacun n'aura que son monde à venir tel que lui le vit.
Très souvent, il y a des éléments
mais
de ce
qu'il a
vécu.
Il me semble que je vous ai répondu. Si j'ose dire, j'inverserai la question. C'est vrai aussi que je...
C'est très souvent.
Je crois que j'ai compris. Non, je crois... C'est très clair ce que vous avez dit. Je vous demanderai chaque fois de ne pas revenir sur les phrases parce que vous ne les achevez pas et quand vous arrivez au moment d'achèvement, vous changez de phrase. Vous voyez ce que je dis? Je veux dire ceci. Il y a un mamar dans la Mishnah qui dit Kolma shebara akadosh baruch hu lichbodo verao. Tout ce que Dieu a créé dans son monde, c'est pour sa gloire qu'il l'a créé. Alors c'est lui pourquoi, c'est lui qui sait pourquoi il a créé des Polynésiens. Et qu'est-ce que c'est que le monde à venir des Polynésiens? Chacun son monde. Alors c'est pourquoi tous les matins nous nous réveillons en disant nous avons de la chance d'être juifs. Parce que nous aurons le monde à venir d'Israël. Mais ça ne veut pas dire que les Polynésiens, comme vous dites, les Bantous, les Peuls, les, tout ce que vous voudrez, n'ont pas leur avenir. Les Juifs des nations ont pour eux une part au monde à venir, la leur.
Non, je voulais dire les éléments de leur...
Alors, vous voulez dire que si au monde à venir... on pourra cacher les éléments de culture polynésienne.
Oui, par exemple, un bouddhiste ou quelque chose qui est de la spiritualité pour les pétants d'Israël.
Je ne crois pas que je vous dis oui.
Non.
Vous désiriez que je dise.
Par exemple, c'est peut-être de la fiction. Par exemple, pour le chrétien, il ne peut pas se représenter heureux. On peut être heureux sans Jésus. Maintenant, le bouddhiste, comme il a vécu et qui s'est parfait en vertu dans sa religion, il ne peut pas se représenter vraiment un monde paradisiaque. Mais sans pour ça dire que. Que Bouddha soit un dieu, ce qui du reste n'est pas vrai, je suis pas dans le bouddhisme, c'est un sage. Vous voyez ce que je veux dire? Que quelque chose, c'est tout.
Finalement, le verset que vous avez cité, c'est un verset d'Isaïe, où Maléa arrête d'Atachem Kamaim Layam Mechassim, et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Comme l'eau qui emplit le fond des mers. Avant de vous répondre, ça fait partie de notre sujet. On m'a dit, c'est comme l'eau qui remplit le fond des mers. Okay? Il dit oui, plus on aura été humble, plus il y aura une couche d'eau. Plus on est bas dans le fond des mers, et plus il y aura de connaissances. Vous voyez la correspondance. Eh bien écoutez, bon, au moment de l'explication qu'ils auront en leur jugement, ben Dieu leur expliquera, voilà en réalité en quoi tu croyais, désintoxique-toi. Alors pour un chrétien, il sera très heureux au pied d'un juif, ça suffit. Est-ce que c'est clair? Oui. De la même manière, les autres, les autres et les autres. Donc, parce que, et d'ailleurs, les chrétiens en ont déjà le pressentiment, parce qu'ils essayent de récupérer le fait qu'en été, ils croyaient dans l'identité d'un juif. C'est ça qui leur restera. L'idole sera évacuée. Un juif, ça veut dire n'importe lequel. J'ai souvent répété cela. Il y a écrit dans les évangiles le salut vient des juifs. Il n'y a pas écrit du tout dans les évangiles le salut vient du Christ. Il y a le salut vient des juifs. Réfléchissez bien à ça. Et d'ailleurs les chrétiens de bonne foi le savent.
J'espère vous avoir répondu, vous avoir rassuré, parce que je pensais.
Cela dit, il y a quand même un chasseur naturel, il revient en galop, parce que le monsieur qui s'occupait de l'ambassade chrétienne à Jérusalem, qui est venu le jour de.
François Célère.
Ici à Shabbat, le jour de la.
Pas Shabbat, c'était Shabbat, mais
c'était Toubishvat. Shabbat de Toubishvat.
C'est pas pour enregistrer, j'ai attendu tout.
Seulement. Comme nous sommes hospitaliers, puisque nous sommes à l'hôpital. Bon, alors continue.
Mais en même temps, c'est quelque part dangereux. Enfin bon. Ce monsieur a. Pourquoi je disais chasse naturelle et revient au galop?
Mais il a raison.
D'accord, mais je dis quand même, quand vous disiez, tout de suite, vous disiez les chrétiens dans le texte lisent bien les juifs, mais quand même.
Mais ils ont raison quand ils disent les juifs, je voudrais mettre sur les vrais juifs.
Oui.
C'est pas comment dire, vous avez besoin d'un médecin.
Et vous tombez sur un charlatan. Ça dépend
Le seul danger, c'est quand ils disent que le salut vient des juifs, mais que le christianisme est l'aboutissement du judaïsme.
Bon.
Alors là,
on a un compte à régler avec eux.
Juif, il faut devenir chrétien.
C'est sûr, c'est ça. Voilà, oui. Mais ils savent très bien que ça dépend à qui dit ça. Ils savent très bien comment ça tient. Donc, je crois que c'est pour ça que c'est une grandeur de l'identité israélienne. Même les juifs israéliens, ça ne mord pas sur eux. Vous voyez, je pourrais vous décrire la situation s'inverse là-bas.
Je connais beaucoup de chrétiens qui habitent Jérusalem, enfin quelques-uns, mais c'est beaucoup. Et qui sont des gens de bonne foi, très sincères, et qui découvrent que tout s'est inversé, que c'est eux qui sont en exil, en apprentissage. Alors qu'il y a eu une remise en place de l'ordre des évidences, alors que les juifs, en monde chrétien, pensent à l'envers ce problème. Vous comprenez ce que je veux dire, Ken ?
Mais c'est juifs parmi nous qui ne sont pas, qui n'ont pas les pendules à l'heure.
Mais c'est aux juifs à ouvrir les yeux.
Mais à Jérusalem, il y a les mormons.
C'est ma vie de parler, parce que c'est là, je vais oublier au milieu de la phrase.
Oui, je risque d'oublier. Mais voilà ce que je voulais vous dire, et c'est important, il faut que ça me revienne. Cette prétention à être le véritable Israël n'est pas finie, elle n'est pas évacuée. Ce que je dis, c'est qu'il y a le pressentiment que s'est passé quelque chose de nouveau. Je vais raconter une histoire vécue d'ailleurs, que j'ai lue il y a 25 ans dans un journal israélien. C'est un prêtre catholique qui avait une discussion avec un kibboutznik du Mapam, c'est-à-dire un juif israélien marxiste, athée, enfin, qui croyait, qui croyait pas. Et alors... Le prêtre dit, ils s'étaient liés d'amitié, d'ailleurs ça existe beaucoup, des prêtres qui se lient d'amitié avec des Israéliens non religieux, parce qu'ils ont peur des os. Et alors, mais une amitié sincère, avec une véritable admiration, il me dit, c'est extraordinaire, vous réalisez les prophéties, et puis il les connaissait mieux que l'Israélien. Et alors il dit, mais quand même, pourquoi vous l'avez tué? Alors... L'autre a bouilli de colère. Moi, j'ai tué quelqu'un. Et puis, il dit, je vais te raconter une histoire. Et j'ai un peu fait allusion, vous voyez, ça, c'est inconscient. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à la sortie d'Égypte, les affiches de la Sornoute. Je dis, voilà, on était heureux en Égypte. Il y a un livre de Gérard Israël qui s'appelle « Heureux comme Dieu en France ». Imaginez, les Juifs étaient heureux en Égypte comme ils sont heureux à Paris. Et alors, voilà. Il y a un prophète qui vient au nom d'un Dieu, qui nous attire par des promesses, et puis, où il nous emmène? Au désert. Et lisez l'histoire. Et lisez l'histoire de la fondation des colonies du Mapam. Et vous savez ce qu'ils ont bavé pour transformer les marais en kibboutzim. Et alors, un jour, ce Dieu a eu l'imprudence de nous envoyer son fils, on s'est vengé. Il dit, comment vous pouvez me dire une chose pareille? Il dit, et comment vous pouvez me dire une chose pareille? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, vous savez pas, les Israéliens ont la peau dure là-dessus, ça ne mord pas. Et il s'est passé quelque chose dans l'identité juive qui a ouvert les yeux et qui a inversé l'ordre des évidences. Et ça veut dire, les juifs en pays européen, en pays chrétien, ont toujours eu peur. Peut-être c'est eux la vraie religion. Mais pour un Israélien, la question est réglée. C'est vraiment eux le vrai paganisme, Gamarnou. En tout cas, surtout pour ceux qui sont nés en pays d'islam. Pour les juifs qui sont nés en pays d'islam, pendant des siècles, l'autre religion, c'était l'islam. Et puis les chrétiens, ah oui, une chose exotique comme ça, un juif qu'ils adorent. Et à essayer d'imaginer la réaction de la sensibilité sfarade lorsqu'elle découvre le christianisme. Il n'y a pas de danger, à moins qu'on devienne ashkénaze. Alors là, ça commence Kafka. Okay. Vous comprenez, je veux dire, Kafka, c'est Ashkenaz. Peut-être qu'ils ont raison, labyrinthe du doute. Okay. Sfarad, c'est Judas Lévi. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Et je crois d'ailleurs que tous les Sfaradines qui ont choisi d'habiter les pays européens deviennent Ashkenaz. Okay. Vous avez remarqué ça? Et en devenant Ashkenaz, ils ont sans préparation, parce que les Ashkenazim ont eu 2000 ans d'immunisation, enfin les rescapés, ils ont sans préparation les problèmes des Ashkenazis, mais sans l'immunisation. Et alors ils se marient à l'église, plus que facilement, mais si t'en as autre, en gros. Bon, on a pas le droit de faire le deuil sur personne, mais enfin, quand même, vous comprenez ce que je veux dire. Zervoud, c'est-à-dire que c'est une sensibilité complètement différente. Toutes ces perplexités et tous ces combats contre des moulins à vent qu'on voit dans tous ces engagements pour la sauvegarde de l'identité juive dans un pays comme la France, on n'a pas de temps à perdre là-bas. Pour ça, le problème n'existe plus. Est-ce que c'est clair? Donc, si, oui, rapidement, parce qu'on va faire une petite apsaka, et je voudrais terminer ce texte aujourd'hui. Mais rapidement, hein. Ma, Zirkut Torah.
Est-ce que tu voudrais revenir sur le fait de dire la Torah de Moshe?
Mais on l'a étudié déjà.
Non, mais il y a une chose que je voulais poser, c'est le fait que la Torah, on a vu qu'elle était du niveau Elion, et Moshe l'a reçue à son niveau. Il y a donc quand même une différence
entre. Alors, la question, quand je reviens de la salle, je voudrais aussi t'inverser, mais une fois de temps, c'était.
Vous voyez. Comment vivre cette. Comment évacuer ce sentiment qu'on ne peut pas ne pas avouer, n'avouons pas orgueil ou fierté ou simplement supériorité, le sentiment d'être dans le vrai alors que les autres nations soient dans l'erreur. Comment vivre dans la relation à l'autre?
Je précise
tout de suite pour ne pas perdre de temps. Il ne s'agit pas de ça. Je ne veux pas du tout dire que les chrétiens sont dans l'erreur lorsqu'ils sont dans leur équation d'identité propre et nous les aider à l'épurer. Les chrétiens sont dans l'erreur quand ils se prétendent être les vrais juifs. C'est là qu'ils sont dans l'erreur. Mais qu'il y ait une cohérence de la tradition chrétienne pour les chrétiennes, nous pouvons leur expliquer. Et faire la paix là-dessus.
Je ne veux pas parler d'eux, de notre sentiment à nous.
Alors, il y a un problème pour les autres. Chacun est dans son expérience à lui.
Mais c'est la même question du Olam Haba de chacun. C'est dans la mesure où il y a prétention d'usurpation d'identité qu'il y a conflit. Est-ce que c'est clair?
Non, mais je vais finir par dire que c'est le danger de vos séminaires.
Okay.
C'est que les juifs se considèrent comme supérieurs aux autres êtres humains.
Non,
parce que nous avons tout à voir. C'est le danger. C'est tout le contraire que dit ce texte. Si ce texte me plaît, c'est tout le contraire.
Absolument.
Il y a des chrétiens qui sont remarquables et il y a des juifs qui sont des salauds. Quand même.
Bon, c'est encore un autre problème.
Ils ne sont pas remarquables ni salauds de la même manière.
Du calme. Je veux dire, j'ai beaucoup d'amis chrétiens
et de qui j'ai beaucoup appris pour la culture. Et j'ai eu des maîtres même, des professeurs, mais certains je les considère aussi comme des maîtres. Dans tout ce qui concerne la culture générale, à partir du moment où il s'agit de la connaissance et de la foi dans la révélation de la Bible qui a été donnée aux Hébreux, là est le conflit. Je voudrais être bien clair. Hein. Par exemple, vous savez, mais arrêtez-le. Vous savez la position qu'a pris le père Riquet concernant le caramel d'Auschwitz, qui, à mon sens, ponctuellement, mais si vous me répétez exactement, c'est une position malhonnête. Si vous l'avez suivi dans les journaux. Bon. Et non seulement malhonnête, mais qui n'a absolument pas tenu compte de la sensibilité juive, en tout cas des juifs européens, de la sensibilité juive en général. Après tout, on aurait pu envisager qu'il y ait un couvent n'importe où, même à Auschwitz, à condition qu'il y ait la paix profonde entre l'Église, surtout polonaise, et puis les Juifs, ce qui n'est pas le cas. Et une hypertrophie de la revendication de la sensibilité chrétienne, surtout celle des carmélites. Et je crois que là, il y a quelque chose de l'ordre de la malhonnêteté. Peut-être qu'il y a un mot moins grave ou plus grave, peu importe. Il n'en reste pas moins que je garde au père Riquet une amitié sans faille. Et on s'est téléphoné cette semaine, nous avons rendez-vous le mois prochain pour une, une soirée d'échange, ça va être un peu difficile parce qu'il est un peu sourd, mais enfin, il y aura une secrétaire. Et d'âge canonique, rassurez-vous. Eh bien, je vous donne un exemple. Lorsque le Périquet me communique de son expérience de la sagesse de la culture générale, je reçois. Mais dès qu'il commence à me parler de la Bible, il sait très bien qu'il a en face de lui un hébreu. C'est très différent. Vous avez compris le problème. Bon. Alors, je pense que c'est bien clair. Rappelez-vous chaque fois la Mishnah qui dit « Chassidei umot ha'olam yesh lahem chelek la'olam haba ». Kamarnu ? Ça veut dire « Chacun a son monde ». Et c'est dans son monde qu'il doit être, dans son monde, dans ses catégories qu'il doit être sadique. Et maintenant, ceci dit, ça n'évacue pas complètement le problème de la supériorité. Parce que si c'est à Israël que Dieu s'est adressé en direct, il est bien évident que les goïms le ressentent comme un problème, et que leur révélation n'est qu'une révélation en différé, pour garder les termes de la télévision, okay. Et le danger, c'est que les juifs se prennent au sérieux. Et j'essaierai d'expliquer comme ça. Dieu s'est adressé à Israël en tant que collectivité. Le danger, c'est quand l'individu juif se met à la place de sa collectivité, c'est là qu'est le danger d'orgueil à l'échelle individuelle. Est-ce que c'est clair? Je crois que je vous ai cité une fois, mais je ne me rappelle plus quel homme politique avait dit ça. Oui, et c'est pourquoi, l'antisémitisme moderne a recommencé ce jour-là. Jusqu'à ce discours de Strasbourg, c'était bien ça?
Jusqu'à ce discours de Strasbourg, je sais bien, parce que vous devrez...
Il a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher le général de dire cette phrase, il l'a dit dans ses mémoires, et le général a dit, laissez-moi tranquille, je le dis. Bon, et alors, ben voilà l'exemple de De Gaulle. Je considère De Gaulle est un des plus grands hommes du temps contemporain. Et c'est un des plus grands hommes d'État, un des plus grands hommes tout court du monde contemporain. Et cependant, j'ai un certain nombre de griefs en tant que juif de le considérer comme un fléau. Ça n'empêche que c'est un grand homme. Vous comprenez ce que je dis? Alors, c'est rare.
Il a quand même fait des erreurs.
Il a quand même fait des erreurs, Alors, rappelez-moi, de quoi je parlais juste avant, j'ai pas fini.
Collectivité.
C'est la supériorité. Alors, c'est cela.
Il y avait une comparaison entre le peuple allemand et le peuple juif, je crois que c'est Herriot, Philippe Herriot, mais je ne suis pas sûr. Hein. Et je dis ça sous toute réserve. Il y a quelque chose d'absolument opposé entre le peuple allemand et le peuple juif. À l'échelle individuelle, il y a des Allemands qui sont des génies. En tant que collectivité, c'est une catastrophe. Eh bien, chez les Juifs, c'est un peu l'inverse. À l'échelle collective, c'est surnaturel. En tant qu'individu, tous les races et shalom sont possibles. Est-ce que c'est clair ce que je veux? Voilà, je crois que là, on a recodé un peu votre question. S'il y a supériorité, et c'est indéniable, c'est par rapport à ce dont nous parlons, c'est-à-dire la révélation du sens de la vérité, eh bien, c'est au niveau du peuple d'Israël, et pas du tout de monsieur le juif untel, monsieur le juif untel, par rapport à monsieur le goy untel ou monsieur le goy untel. Je crois que c'est clair. Ceci dit, l'échange de questions de maintenant m'a fait mettre le doigt sur un point, je crois, important. Réfléchissez à ça. La sensibilité israélienne par rapport aux problèmes que vous avez évoqués est tout à fait autre. Les problèmes ne se posent pas. Ces problèmes se posent en exil. Donc, on se revoit dans 10 minutes. Hein. Ben, c'est bien. Je crois que vous pouvez expliquer ce que le Maharal veut dire ici, que la Torah est efker dans ce monde-ci, parce que, j'ai employé d'ailleurs dans un des cours précédents, elle n'est pas de ce monde, mais il y a une connotation connue, changer cette expression. Parce que ce monde, c'est le monde, mais l'état de ce monde... C'est un ce monde-ci d'un monde à venir. Mais il faut mieux l'entendre en hébreu. C'est Olam Hazeh dans Olam Haba. Je crois que la meilleure des manières éclairée, je vais l'emprunter au vocabulaire de la Kabbalah. Prenez ces deux expressions, le Olam Mahashava et le Olam Asiya. Ça veut dire le projet de Dieu pour le monde a précédé le faire du monde de la réalité. Et le monde de la réalité est un tzimtzum du monde du projet. Je vais essayer de décrire ça autrement. C'est-à-dire que c'est le Ramchal. Vous avez entendu parler du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un très grand kabbaliste d'Italie. Le Ramchal a donné la description suivante. En parlant des problèmes de la prédestination, essentiellement. Il dit, c'est comme un artiste veut créer une œuvre. Il a d'abord un projet, il voit l'œuvre parfaite, en intuition. Et ensuite, il faut la faire. Bon. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, tout ce qui va se passer dans le monde du faire est déjà existant dans le monde idéal de la vérité. C'est cette vérité qui est mise en jeu dans la réalité, et c'est ce qu'on dit les cinéastes, un script, c'est ce scénario qui se fait, avec une clause de liberté dans la réalité. Alors ça se fera plus ou moins heureusement, aisément, sur la bonne volonté des créatures, mais c'est ça qui se fait. C'est le projet de Dieu qui se réalise. Alors nous avons la prérogative des coups de pouce qui font que c'est plus ou moins heureux. C'est le terme du psaume. Le sens français est assez proche, quelque chose qui vient heureusement, en justesse, ou bien tordu, chaotique, mais dans tous les cas on y arrivera. À coup de pied, mais on y arrivera. Et c'est un problème important, c'est-à-dire de savoir que les deux choses sont vraies, que tout est prévu, mais nous sommes entièrement libres de la manière dont ça se passe. Voilà, est-ce que c'est clair, Ken? À kol tzafouy vereshut netuna. C'est-à-dire, ce qui adviendra, et donc ce qui advient, c'est ce que Dieu a décidé pour le monde. Mais c'est nous qui avons la prérogative de faire que ça se passe comme ça ou autrement, mais en fin de compte, quel que soit le sursis qui nous est donné pour le rendez-vous au projet réalisé, c'est ce projet réalisé qui se réalisera. Et c'est pourquoi je peux vous dire que dès le début de la naissance, la première enfance, l'enfant a le pressentiment de quoi il s'agit pour lui. Et ensuite, il grandit, il oublie. Vous savez que le malheur des hommes modernes, c'est d'avoir oublié leur enfance. Les grands des sociétés traditionnelles avaient la mémoire de leur enfance, alors ils étaient sereins. Est-ce que vous comprenez ça? Je crois que les parents modernes ont beaucoup de responsabilités. Seulement, il faut bien savoir que ce n'est pas des problèmes de personnes, c'est des problèmes de situation. Parce que les parents ont été des enfants et les enfants deviendront des parents. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et donc, les choses sont peut-être plus claires comme ça. Olam Elyon, dans le langage du Maharal, c'est le Mahashevet Avoré. Olam Mahashava. Mahashava, ça veut dire projet, pas penser, projet. En hébreu, on ne dit jamais penser, on dit penser à quelque chose. Lachshov al Mashehu. Le sens de la pensée, c'est grec. En hébreu, c'est penser à quelque chose, c'est une intention, un projet. Okay? En hébreu, d'ailleurs, on emploie un mot araméen pour ça. Pour dire la pensée dans le sens grec, on dit svara. Svara, ça veut dire le fonctionnement de la pensée, les structures de la pensée, la svara. Par exemple, pour dire en hébreu moderne, expliquer, on dit l'asbir. Samer, betresh, hein, sévère. Et il y a, j'ai retrouvé en espagnol, ça vient du latin, mais en espagnol, une racine qu'on a en français, vous allez la reconnaître, qui montre bien que ça veut dire marachava. Il y a aussi une dimension d'espérance. C'est spera en espagnol. Espera, ok. Esbor en arabe.
Et en espagnol, il y a aussi
saber,
le verbe savoir.
Saber, saber. Oui, ça c'est le savoir. C'est une autre racine.
Oui, mais ce sera pas de svara.
Non, parce que la racine dans laquelle je pense, dans la
latine, a un P et pas un B.
Ah non, pas. Ça dépend de l'époque de l'espagnol.
Pardon ? Ça veut dire aussi attendre. Oui, attendre en espérant. Bon, c'est clair, mais à quoi je fais abuser. Et alors, c'est la patience de l'explication. C'est asvara. Mais c'est ce qu'on appelle en moderne, asvara.
La plupart du temps, de l'asbaratin.
Alors, quelqu'un vous voulez une question? Oui.
Je n'aurais pas dit Nefesh du tout, parce que d'après le Nefesh reste dans l'Olam Hazé. Ce n'est pas Yechida, c'est au niveau de Ruach. Je dis ça pour ceux qui connaissent ces termes, okay? Parce que pour les autres, votre question, c'est du charabia. Okay? Et c'est-à-dire que notre conscience, je vais parler en français, notre conscience, dès la naissance, a le pressentiment de ce qu'est son monde. Alors il y a un temps d'enfance où l'enfant vit comme si c'est ce monde qu'il vit dans ce monde-ci. Un jour, il ouvre les yeux, on appelle ça devenir adulte. Il ouvre les yeux et puis il se sent jeté en bas dans ce monde. Et il n'y en a pas d'autre, mais, mekulkal, détraqué, okay? Caricaturé, corrompu, sali. Enfin, vous voyez à peu près quel est le thème que j'essaie de vous décrire. Mais je crois que la bonne santé spirituelle hébraïque, juive, traditionnelle, c'est que le monde vrai, c'est ce monde de la réalité, mais à la limite du parfait. Et encore, le mot parfait me gêne, comme vous le savez toujours, à la limite du vrai, disons. Et alors, ça rassure beaucoup. Ça veut dire que c'est le monde comme on l'a connu, parce que ce n'est pas moi, avec mes expériences, qui me retrouve dans la vie d'après, alors ce n'est pas moi. Non, c'est moi, avec mes expériences, mes nostalgies, mes regrets, mes souvenirs, mes réussites, mes joies, mes douleurs, tout ça transfiguré, ce monde-là. C'est mon monde à venir au niveau de ce que Dieu a vu dans un monde, pas de cette boue dans laquelle on est. Vous avez compris? Ça, il faut vraiment un poète pour décrire ça, mais l'idée, je pense, est claire. Okay? Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que les rabbins parlent. Chacun acquiert son monde. Qu'est-ce que ça veut dire son monde? Le monde tel qu'il le connaît. Et alors, c'est pourquoi nous nous retrouverons là-haut, si Dieu veut, mais meilleur bien avec nous, chacun à son niveau. Mais avec une clause, que ici, nous sommes chacun enfermé dans l'opacité de l'équation individuelle. Là-bas, c'est transparent. Okay? Mais j'ai pas le droit de vous parler de là-bas, j'ai jamais été, d'où je sais. Okay? Bon. Mais enfin, vous comprenez de quoi il s'agit. Alors, retenez que le Olam Abba, c'est le Olam là-bas. Okay? Alors, on revient ici. Bas.
Amalek, transfiguré. La vue.
L'amitié.
Stéphane, j'avais de ces questions. Vous savez que ce serait
Amalek. C'est un Israël échoué, un Israël avorté. C'est ça Amalek. Alors méfiez-vous, n'importe quel juif peut devenir un Amalek. Alors la consolation pour Amalek, c'est que là-haut, n'importe quel Amalek pourrait redevenir juif. Mais tous les détails Hitler, c'est des détails, c'est des détails. Il faut laisser au bon Dieu quelque chose à faire.
Je ne sais pas si j'avais à réécrire cette histoire, compte tenu de toute la sagesse du village, je l'ai peut-être une fois décrit comme on aurait pu l'éviter.
Après tout, cette folie-là, c'est pas fatalement. Mais il y a une telle insouciance chez les juifs qui laisse se préparer des choses énormes, et après, quand ça arrive, dire j'ai compris ce que je fais. Donc, aucune allusion à la politique contemporaine. Au fond, je parle que de ça. Bien, il y a une autre question, on enchaîne sur l'Olam Haélyon. Okay?
C'est la question sur la Torah de Moshe, qui m'a demandé de répéter maintenant.
Oui, le verset par lequel on veut commencer.
Et dans la première référence que le Maharal a citée, il disait, je vous rappelle, c'est la raison pour laquelle c'est à Moïse que la Torah a été, grâce à Moïse que la Torah a été donnée, et c'est pourquoi il cite le verset de Malachi, le verset dit, Zichru Torat Moshe Abdi, Torat Moshe. Je vous ai raconté un midrash de la Gemara de Shabbat, où c'est parce que Moïse a eu la réaction de modestie, c'est invraisemblable, vous dites, la Torah, moi, vous vous rappelez? que Dieu a dit, alors elle se rappelait de ton nom. C'est très profond comme indication du Midrash. Alors, le verset dit, « Ve'aish Moshe Anav, Mikol Ha'adam, Asher Alpene Ha'adama. » Et l'homme Moïse était humble plus que tout homme sur la surface de la terre. Alors, du point de vue de la lecture logique, de l'exégèse logique du verset, il y a une difficulté. Est-ce que Moïse n'était pas aussi un homme sur la surface de la terre? Donc le verset ne peut pas dire « plus que tout homme sur la surface de la terre », ça voudrait dire « plus que Moïse lui-même ». Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Oui. Ça veut dire que la modestie de Moïse a été éprouvée lorsque Moïse n'était pas sur la surface de la terre. Lorsque Moïse était au Sinaï, en haut, au milieu des êtres d'en haut, c'est là que sa modestie s'est révélée. Et je pourrais paraphraser un peu, mais je pense que l'idée est suffisamment claire. Et alors, ça veut dire qu'il a été un de ces hommes d'en bas qui, là-haut, est resté modeste. Alors la Torah lui a donné. Et on l'explique comme ça dans la Kabbalah. Le mot de Anav, qui signifie le prince était là, il me l'aurait écrit. Mais vous voyez, Aïn, Nun, Yud, Vav. Anav signifie humble. Mais dans le verset, il est écrit sans le Yud. Et la valeur numérique du mot sans le Yud, vous allez compter avec moi, c'est 70 et 50, ça fait 120 et 6, 126. Or, Moïse est resté en haut 126 jours. 3 fois 40 jours et les 6 jours de les 6 premiers jours de Sivan. Ça y est, c'est clair? Ça veut dire pendant 126 jours, sa modestie s'est révélée où? En haut. Alors le verset peut dire « plus que tout homme sur la surface de la terre ». Voilà, je pense que tu as ta réponse. Ça veut dire que il y a eu une épreuve de l'identité d'Israël à travers Moïse, parce que Moïse c'est le Moïse d'Israël, c'est le fils du chef de la tribu de Lévi, okay? Son père était le chef de la tribu de Lévi, et puisque ça s'est révélé, c'est que c'est comme ça, c'est que vraiment c'est une identité de modestie. Alors la Torah lui appartient, et le Maharal explique, et ce n'est que chez ceux qui ont cette identité de modestie que la Torah se mitkayemet, réussit. Chez les autres, ça s'altère, comme le vin, le lait et l'eau, qui s'altèrent à cause des vases qui ne sont pas purs. Vous vous rappelez de cela? Voilà, c'est l'essentiel de ce... Attends, une minute. Voilà, vous m'avez fait oublier ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu veux dire?
La terre niche qui est
employée. Oui.
À cette situation-là, c'est-à-dire que la...
Oui, c'est le mot de ish. Ça, je vous dévoile un peu un autre niveau de lecture. Le mot de Ish signifie homme, mais en réalité, c'est une des catégories des anges qui s'appelle. Il y a 10 catégories d'anges, il y en a une qui s'appelle Ish. Et ça veut dire que Moïse, en tant qu'homme, était capable de ce niveau-là. Alors, dans son voyage là-haut, il était avec eux. Et c'est là qu'il y a cette discussion que Dr. Prince a citée hier soir. Quand Moïse est arrivé là-haut, les anges ont dit que. Voilà la phrase. Ma le iludisha benenu. Iludisha, ça veut dire un fils de femme parmi nous. Imaginez un fils, un humain, comme on dirait, chez les hommes, chez les anges. Ouais, ces anges qui s'appellent des hommes. Ish, il y a difficile à faire parmi nous. Il innocemment chercher la Torah. Il était fou. Alors, ils se mettent à discuter. Vous vous rappelez de cette discussion dans le Midrash, je vous la rappelle. Et Moïse leur dit que c'est écrit dans les 10 commandements. C'était les 10 commandements. Mais ce que Michel n'a pas eu le temps de citer, c'est que dans ce texte, ces 10 commandements, il n'y en a que 8. Moïse fait passer l'interrogatoire des anges. Par exemple, il y a écrit « Tu ne voleras pas. » Vous faites du commerce, pour que vous ayez besoin d'une loi pareille. Okay? Alors, c'était évident. Donc, la Torah dont nous parlons ne les concerne pas. Alors, c'est très difficile. Si la Torah dont nous parlons ne les concerne pas, parce qu'ils ne le savent pas, pourquoi ils disputent Moïse?